Hélène Sauvignon avec Didier Mélière.
Nous voici donc au cinquième entretien d'une série consacrée à transmettre à un public les fondamentaux de notre foi de façon captivante et instructive. Dans les précédents entretiens, Didier Mélière, vous nous avez montré pourquoi les exposés publics oraux nécessitent plus de travail que les écrits. Et vous nous avez initié aux outils ACMA. Aujourd'hui, nous étudions le premier A, qui signifie « accrocher dès la première seconde, allumer l'attention tout de suite ». Pourquoi est-ce si important ?
En Occident, nos cerveaux, multi-sollicités à longueur de journée par des médias sophistiqués, ont une vigilance auditive très courte. Pour des exposés éducatifs, par exemple, sur les fondamentaux de la foi, l'histoire de l'Église ou les sujets philosophiques, on peut prolonger la vigilance en utilisant des diapositives. Pour les homélies qui n'ont pas cette possibilité, la vigilance est inférieure à 10 minutes. Mais cela suffit pour transmettre beaucoup. Dans la plupart des grands congrès internationaux, c'est le temps accordé aux exposés des travaux scientifiques, y compris pour des études complexes et multi-équipes. Après 10 minutes, l'attention baisse. Les gens s'endorment. Que vaut-il mieux, à votre avis ? Peu d'idées retenues ou beaucoup d'idées oubliées ? Cette durée limite implique de susciter la soif d'écouter dès le premier instant et ensuite de suivre un objectif précis, comme on l'a vu lors de l'entretien précédent.
Mais alors, comment, dès le premier instant, captiver les auditeurs, capturer les esprits, ferrer leur cerveau ?
C'est très simple. Nous devons associer deux outils, les regards et une idée accrocheuse. Premier outil, les regards. Un prêtre ami se désolait car dès ses premières paroles, les têtes commençaient à dodeliner. Comment en aurait-il été autrement ? Il ne regardait que ses papiers et parlait d'une voix confidentielle. Pour que vos auditeurs perçoivent que vous avez quelque chose de très important à leur dire, commencez par les regarder en silence. Balayez la salle du regard, chaleureusement. Ils sauront alors que c'est à eux que vous allez parler. Vous leur donnez l'envie de vous écouter. Premier outil, les regards. Deuxième outil, une idée accrocheuse. Attention, cette accroche n'est pas l'introduction. Celle-ci viendra aussitôt après. L'accroche est le moyen d'éveiller l'attention, de susciter l'intérêt en créant une complicité avec l'auditoire. Alors comment ? Sept types d'accroches sont à notre disposition. Premièrement, une question qui interpelle suivie d'un silence. Une question qui interpelle suivie d'un silence. Cette question a l'avantage d'appeler d'emblée à une réflexion personnelle, donc à mobiliser les neurones. Lorsque l'interlocuteur fabrique la réponse, elle devient sienne et a plus de chances d'être mémorisée et d'entrer dans la pratique. À l'inverse, s'il se sent incapable de répondre, vous avez créé en lui la soif d'écouter votre réponse. J'ai dû débuter souvent en posant des questions. Pour vous, qui suis-je ? Quel est celui qui a fait la volonté de son père ? Pour qu'une question en soit une et non pas un artifice de style, elle doit être suivie d'un vrai temps de silence pour que les auditeurs aient le temps de creuser la question. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, vous pouvez répéter la question avec une voix différente quelques secondes plus tard. Cette question, vous allez pouvoir la puiser n'importe où dans l'exposé. Et bien souvent, vous n'écrirez votre accroche que lorsque tout l'exposé aura été préparé. Elle a alors évidemment plus de chances d'être bien ajustée au contenu de l'exposé. Premièrement, une question. Deuxièmement, une anecdote. Elle peut être tirée de l'actualité, de rencontres récentes, de l'histoire de l'Église, etc., etc. Lorsque vous adressez à des jeunes, elle peut être tirée d'un film ou d'un tube connu de tous. Mais il faut qu'elle ait un vrai rapport avec le thème qui va être développé et qu'elle soit courte, car elle n'est que le ferrage, un moyen de susciter l'attention. Elle ne doit pas consommer du temps au détriment de l'essentiel qui va suivre. Ces deux premiers types d'accroches sont les plus utilisés. Question, anecdote. Mais les suivants peuvent être plus appropriés à certains exposés. Troisièmement, donc, une plaisanterie. Cela marche bien avec les jeunes, mais aussi avec les actifs, dont les conférences professionnelles commencent souvent par une « introducing joke ». Comme pour les types précédents, cette plaisanterie doit être en rapport avec le thème de l'exposé ou de l'homélie. Il faut donc la choisir avec discernement.
Question de vie, Hélène Sauvignon s'entretient avec Didier Mélière.
Question, anecdote, plaisanterie, quatrièmement, une proposition choquante. Par exemple, on commence par louer la vengeance ou toute autre attitude en contresens de notre morale. Elle est puisée dans nos réactions irréfléchies, nos pulsions, nos comportements instinctifs. Son outrance, exploité à l'extrême, va permettre d'illustrer ses effets pervers d'une façon caricaturale. On part du banal désir de vengeance avec ses enchaînements infernaux pour arriver au pardon et à la prière pour les assassins. Ou bien on peut partir du désir de liberté sexuelle. On développe alors les naufrages de vie qu'elle entraîne pour promouvoir le mariage chrétien. Les terribles conséquences du non amènent à s'engager derrière le oui. Monseigneur Lustiger utilisait très souvent ce type-là. Cinquième type, les apparemment inconciliables de la doctrine chrétienne. Par exemple, la grâce et le libre arbitre. Dieu, nous. Ce débat est apparu dès le IIe siècle et un peu plus d'un millénaire plus tard, il a largement contribué au développement du protestantisme et des guerres de religion. Aujourd'hui, il s'est apaisé dans une meilleure compréhension des arguments des uns et des autres. Ce genre d'accroche ouvre du passage d'un premier degré à un deuxième niveau. Question, anecdote, plaisanterie, proposition choquante, inconciliable de la doctrine. Sixièmement, les causes d'incompréhension ou de rejet de l'Église. On retrouve les incontournables, les croisades, l'inquisition, le dogme de l'infaillibilité pontificale, ou hélas, les scandales de l'Église. Éluder ces questions, c'est laisser la place au doute, à la suspicion et souvent au rejet de l'Église. C'est aussi laisser prospérer des contre-vérités ou des jugements anachroniques largement développés par les anticléricaux et les ennemis du christianisme. C'est aussi laisser ignorer les demandes de pardon de l'Église et ses redressements. C'est aussi laisser ignorer le dévouement exemplaire de tant de chrétiens. En réalité, chacune de ces causes d'incompréhension ou de rejet est une providentielle opportunité pour expliquer, pour démonter les mensonges et les accusations diffamatoires, pour rétablir la vérité. Loin d'excuser les déviances insupportables, on pourra rappeler que le Christ fut trahi par ses disciples dès sa passion. On pourra questionner nos propres trahisons que celui qui n'a jamais transgressé jette la première pierre. On pourra en profiter pour montrer tout ce que l'Église, par ailleurs, a porté tout au long de ces deux millénaires, ainsi que les combats difficiles menés par des prêtres et des laïcs chrétiens, aujourd'hui encore au péril de leur vie. Actuellement, vous le savez, un prêtre est assassiné quelque part dans le monde tous les 9 jours. Enfin, les paroles apparemment scandaleuses du Christ. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres. Entendue au premier degré, cette affirmation n'est-elle pas la plus belle illustration de cet opium du peuple que Voltaire estimait utile pour calmer les gens et avec lesquels Karl Marx a discrédité le catholicisme? Ces textes apparemment scandaleux ne peuvent laisser personne indifférent. C'est donc une merveilleuse occasion de montrer le chemin entre le premier niveau de lecture et le second.
Nous avons donc, pour accrocher les auditeurs d'emblée, les regards et les sept types d'accroches. Je les rappelle, une question qui interpelle, une anecdote stimulante, une plaisanterie bien choisie, une proposition choquante, une contradiction doctrinale, une provocation et enfin une parole surprenante du Christ.
La prochaine fois, nous aborderons les autres outils.
Eh bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois, Didier Mélière.